Donc on prend la page Kouf Pevav, on est Siman Lamed Tet, Seif He. Seif He. Donc on est en haut de la page, la première ligne. Donc on était dans la lachot de l'écriture des Tefilim. On a expliqué que par exemple, un esclave, une femme, un enfant, etc. ne peuvent pas écrire des Tefilim. Pourquoi ? Puisqu'il y a un dîme particulier qui dit que ne peut écrire des Tefilim seulement une personne qui a l'obligation de les mettre. Or, toutes les catégories qu'on va dire n'ont pas l'obligation de les mettre. Elles peuvent les mettre éventuellement, mais ils n'ont pas l'obligation de les mettre, Azak. Donc, puisqu'ils n'ont pas l'obligation de les mettre, donc ils peuvent pas écrire les téphilines. Ensuite, on avait expliqué que des téphilines qui ont été écrites par un apicoros, hein, épicurien, on a traduit ça, dans ce cas-là, on a dit, il y a un avis qui dit qu'il faut les brûler, et il y a un deuxième avis qui dit qu'il faut les mettre à la gnisa. Bon. Maintenant, Nimtso be'ad apikoros ve'en yadua mirtavam. Si les tefilines ont été trouvées dans la main d'un apikoros, c'est-à-dire quelqu'un a priori qui ne croit pas. Alors on a dit la définition d'apikoros, il y a plusieurs avis, mais a priori la définition qui est acceptée aujourd'hui, c'est une personne qui ne croit pas dans l'interprétation des sages. Donc imaginez-vous, vous avez quelqu'un, un vendeur, d'accord, quelqu'un qui vend des tefilines.
Un athée, quoi.
Voilà, le vendeur, tu sais qu'il croit pas. Il croit pas, mais il te dit pas que c'est lui qui les a écrits. À la limite, tu dis, c'est pas moi qui les ai écrits, je les ai achetés, etc. Ven yadua mirtavam. Et on n'arrive pas à déterminer, on n'arrive pas à prouver qui les a écrits. Puisque si on arrive à prouver que celui qui les a écrits était cachère, même si l'intermédiaire était un apicoros, ça c'est pas grave. C'est pas grave, d'accord? C'est pas la fin du monde. Mais par contre, là, si je ne sais pas qui les a écrits, ça veut dire que c'est peut-être lui, ou c'est peut-être un autre apicoros. Alors dans ce cas-là...
Pourquoi on utilise ce terme apicoros? C'était vraiment très négatif apicoros à l'époque, ouais. Parce qu'aujourd'hui on peut pas dire que ce soit très négatif.
Ah bah à l'époque c'est un terme très négatif.
À l'époque, oui c'est...
C'est un terme très négatif, c'est un terme c'est l'équivalent des libéraux.
Mais il y a des apicoros pas, ouais.
Sauf que ils sont en plus intelligents quoi.
Ah oui.
C'est des gens, c'était une idéologie quoi, c'est pas simplement parce qu'ils se leur prend la tête.
Plus intelligents parce qu'ils pouvaient casser les...
Bah oui. C'était par idéologie, ça n'a rien à voir. Mais c'est le même style. Très intelligent. Ça n'a rien à voir. Ven et Doamir Savam, donc on ne sait pas qui les a écrits, qu'est-ce qu'on a dit, Iganzu, on doit les mettre à la Gnisa. Avant, dans la lacha d'avant, on avait dit, si on sait pertinemment qu'ils ont été écrits par un apicoros, il y en a qui disent qu'il faut les brûler, il y a un deuxième avis qui dit qu'il faut les mettre à la Gnisa. Mais si on ne sait pas qui les a écrits, on ne peut pas les brûler. Les brûler, ça serait quand même... on peut les brûler seulement quand on est vraiment sûr qu'il n'y a pas de Kdusha. Là, comme on n'est pas sûr, donc on va les mettre à la Gnisa. De la même manière, Nimtseu, Beyad et No Yehudi. Si on a trouvé les téphilines dans la main d'un non-juif, exemple classique, c'est arrivé il n'y a pas longtemps à quelqu'un, trouve au marché. Au marché, tu trouves dans les brocans, tu te vends des téphilines. Ven Yadua Mirtavam, impossible de savoir qui les a écrits. Savoir, tu sais pas d'où ils viennent.
Ils ont trouvé des filets comme ça dans le marché.
Oui.
Brocante.
Bien sûr.
En Maroc, ils vendent ça.
D'accord, ils vendent de tout. Oui. Rappelle pas, il y a deux ans. Il y a deux ans, quand on était encore de l'autre côté, il y a une fois quelqu'un qui vient me voir un dimanche matin, c'est après le cours de Gemara. Il vient me voir après un dimanche matin, une dame, elle vient me voir, elle me montre une photo. Elle me montre une photo que son frère lui a envoyée de Casablanca. C'était une photo. Mon frère m'a dit, apparemment, il a acheté ça au marché, mais il a l'impression que c'est quelque chose d'important. Il m'a dit, il a déroulé ça, je crois que c'était sur 150 mètres.
C'est
faire toi. Alors, je lui ai expliqué quoi faire, comment ramener à la synagogue et tout. Elle m'a montré la photo.
C'est une juive, hein.
Non, l'arabe. Mais elle a compris qu'il y avait quelque chose. Alors, je lui ai expliqué, je l'ai amené devant la chanson, je lui ai dit, vous voyez, ça, c'est ce qu'il y a de plus sacré, faites très attention, même le sens, comment on le porte. Enfin, j'essaie un peu de la sensibiliser, comme je me suis dit, il va savoir ce qu'il veut faire avec. Mais ça, c'est... elle a acheté au marché. Il a déroulé, il a déroulé par terre 150 mètres. Bon, d'après, normalement, ça arrivait dans une synagogue de Casablanca. C'est pour la Gnisa, hein, il était dans un état lamentable, mais au moins il faut l'amener dans une synagogue, il faut l'amener à la Gnisa.
On n'a pas l'obligation de le racheter.
Si, ouais. Ouais. Alors, on va voir tout de suite. C'est une bonne question parce qu'on va voir tout de suite. Page coupe et va. Merci beaucoup. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam shehakol nimdo. Kshérim. Donc si on ne sait pas qui les a écrits, c'est que le dîn, Kshérim. Pourquoi ils sont cachers? Puisqu'on dit que par défaut, normalement, un non-juif ne sait pas écrire de tefilin. D'accord? À l'époque, comme on verra après, il y avait une certaine période, les koutims. Les koutims, c'est les QT1. Eux, ils savaient écrire. Aujourd'hui, malheureusement, d'accord? Ça, il faut savoir, quand on est en Israël, il y a des arabes qui savent écrire des tefilin. Hein, il faut le savoir. D'accord, faut le savoir. Ça veut dire, avant, quand on achetait les téfilines, des fois, les Arabes, pour embêter, ils mettaient des mots comme Al-Akbar, un truc comme ça. Ou, comment dire à mort les Juifs? Akbar Al-Yahoud, d'accord? Mais aujourd'hui, vous avez des Arabes qui savent écrire les téfilines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète une personne de confiance, on ne sait même pas si on est écrit par un Juif. C'est très très important ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, les gens achètent n'importe où les téfilines, les mezuzot. Alors que très souvent, c'est écrit par des Arabes puisque la main d'œuvre n'est pas chère. D'accord? C'est des gens qui n'ont rien à faire toute la journée. Il y en a aussi en Israël, d'accord, dans les Shtachim, à Gaza, etc. Il faut le savoir. C'est très important ce que je vous dis.
Et des Chinois donc, aussi, ils doivent imagine une Chinois.
Chinois, c'est les machines.
Non, mais les Chinois, ils savent écrire certainement la langue avec leur écriture.
Si on ne sait pas qui les a écrits, normalement, ils sont cachers. Comme a expliqué le Mishnah Moura, pourquoi ils sont cachers? Puisque on part de la base que les goyim ne savent pas écrire des tefillin. Mais comme je vous dis de nos jours, en France, un goy par défaut ne sait pas écrire des tefillin. Donc, ils sont cachers, les tefillin, qui trichettent au marché. Mais en Israël, les tefillin déjà au marché ne sont pas cachers. Puisqu'on sait que les non-juifs peuvent aussi écrire les téfilin. Donc c'est pas cachère.
Mais c'est à la fois les Arabes, les Tagines,
ça, bien sûr. Vous avez appris? Ils recopient. C'est pas le bout du monde.
C'est pas étonnant qu'on dise ça. C'est un doute midoraita.
C'est un doute, il explique ici. Il dit parce que...
Ils sont cachères alors que...
Parce que dans le... J'ai compris. C'est parce qu'il y a un principe dans les présomptions qu'on peut se baser sur un critère qu'on appelle stam. C'est-à-dire par défaut. Que si par défaut un goy ne sait pas écrire, quand on essaie de faire une présomption, on a le droit de se baser sur un caractère par défaut. C'est un chidouche de la Torah, ça. Par exemple, quand on essaie de faire une présomption, on dit, est-ce qu'un goy sait écrire ou pas? On dit, non, normalement un goy ne sait pas écrire. Oui, mais j'ai une chance sur 1000 qui sait écrire. Une chance sur 100 000 qui sait écrire. Une chance sur 10 000 qui sait écrire. Oui, mais Stam, par défaut, est-ce qu'il sait écrire? Par défaut. Par défaut, il ne sait pas écrire. Donc, puisque par défaut, il ne sait pas écrire, on considère comme si qu'il y a 100%. Il y a beaucoup, on applique ça aussi beaucoup dans les halakhot de la kashrout. Sinon, c'est impossible de manger. Ce qu'on achète en usine, c'est impossible de manger.
Ça, on pourrait dire aujourd'hui que les produits qui sont sur un marché ne viennent pas de France, ils viennent de l'Inde, de Chine.
Oui, oui, oui.
Donc le stand, c'est peut-être justement que c'est un produit qui vient de.
Oui, mais il y a un Ashgaha.
Avec un stand différent, quoi. Avec un défaut différent.
C'est un produit qui vient de là-bas, de Chine d'ailleurs.
Oui, mais il y a un Ashgaha. Non, avec une fausse Ashgaha, ça en général, on retrouve les circuits.
Le goy de Palestine,
c'est
ah, les tefillines, tu veux dire? Oui, si on sait qu'il y a de l'importation, c'est un problème, c'est bien sûr.
Les Chinois sont capables d'écrire sur un grain de riz, avec de l'encre de Chine, une page de Talmud.
Alors, sachez aussi que le Siftei Cohen, il a une idée intéressante, il explique une idée intéressante, il vient une fois à quelqu'un qui a trouvé un Sefer Torah, et un Sefer Torah qui a été acheté chez des goyim. Il a eu une idée très intéressante. Il a dit que le Siftei Cohen, c'est une histoire très particulière. Hein. Il a vécu la guerre, il est niftar à 36 ans, enfin une histoire très très particulière. Il a écrit un commentaire extraordinaire sur Shulchan Aruch. Et là-bas, il dit la chose suivante, il dit qu'on part de la base que les goyim, lorsqu'ils trouvent un Sefer Torah, certainement qu'ils l'auraient abîmé. Par dédaignement. D'accord? Et donc, puisque c'est pas le cas, donc certainement qu'ils savent pas ce que c'est. Il a toute une explication, c'est un cas intéressant. Encore une fois, comme je vous dis, aujourd'hui, cette halakha ne peut pas s'appliquer en Israël, puisque aujourd'hui, c'est du business, donc ils savent ce qu'ils font, et ils savent comment on écrit, comment on présente, comment on fait le packaging, etc. Ah, ils savent tout aujourd'hui, ça, il faut faire attention à ça.
Ils savent tout faire.
En le krim, tfilin, ou mezuzot, ou sfarim, inakutim, ou michel. Ah, très bien. Alors, yoter migde demen arbe. Alors, à l'époque, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le Kitéen avait pris l'habitude de voler des tefilines pour les revendre. Donc, on revient à l'histoire du marché. Des tefilines qui se trouvent au marché, ils n'ont pas atterri comme ça au marché. Certainement, quelqu'un les a peut-être volés, ou je sais pas. Très souvent, ça a été volé. Alors, ça peut arriver aussi avec des siffrés Torah. Aujourd'hui, c'est les Russes. Aujourd'hui, il y a une mafia russe qui est spécialisée dans le vol de siffrés Torah, il faut le savoir. C'est pour ça qu'on a mis un coffre-fort ici. À Anvers, c'est 2 ans, il y a eu une quinzaine de siffrés Torah qui ont été volés. Et l'année dernière, il y a eu encore 3 siffrés Torah qui ont été volés.
Ils les ont retrouvés.
Ils ont retrouvé une bonne partie.
Je sais pas s'ils ont racheté en réalité.
D'accord.
On ne saura jamais.
Non, ils ont retrouvé une bonne partie, c'est très simple parce qu'un siffré Torah, ça se vend pas comme ça. D'accord, il y a une trace.
Mais on sait très bien que la meilleure façon de le vendre, c'est de le vendre à ceux à qui on l'a volé. On sait très bien que ceux qui le vendent, ils appellent ceux qui le volent.
Ça, on le saura jamais. Ça, on le saura jamais.
C'est comme ça.
Ça, ils l'ont pas dit.
C'est comme ça qu'il faut.
Bien sûr. On saura jamais est-ce qu'ils ont payé l'argent.
Le dessinateur, tu le rançons.
Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça.
Alors, on n'a pas le droit de les racheter. Écoutez bien. On n'a pas le droit de les racheter dans QT1. Yoter, maintenant, le QT1, le problème qu'on a avec le QT1, c'est qu'on ne sait pas s'il l'a volé ou pas. Peut-être oui, peut-être non.
On va éviter. Quand même.
Et le russe en est sûr.
Peut-être oui, peut-être. On ne sait pas. Tu sais pas.
Peut-être on peut le remplacer par russe.
Non, c'est pas sûr qu'ils ont été volés parce que tu sais, en Russie, il y a beaucoup de gnisa. Et dans l'église, ils retrouvent des chiffres Torah, des anciens chiffres Torah, que les sofrim reprennent après, qu'ils essayent de les arranger, hein, de les retaper entre guillemets, et des communautés qui n'ont pas de quoi payer un sefer Torah à 25 ou 30 000 euros, pour 7 ou 8 000 euros, ils peuvent avoir un sefer Torah. Tu comprends? C'est pas rien.
Ouais.
Donc c'est pas forcément du vol. C'est pas forcément du vol.
C'est du recel. Bah, là, dans cette condition, c'est du recel.
C'est pas du recel. C'est ils prennent des chiffres Torah dans des endroits où, dans des synagogues.
Ils
où... Il y a des synagogues en Russie où tu as 50 chiffres Torah. Ça sert à rien, il n'y a même pas mignonne. Ouais. De quoi avec?
Pourquoi ils en ont 50?
Justement. Alors, ils vont, il y a des sofrim qui les prennent, qui les retapent, c'est d'accord, qui vont les arranger, et qui vont les revendre à des communautés qui n'ont pas de quoi. Donc, Kedesh, alors pourquoi on n'a pas le droit de les racheter plus que leur valeur, beaucoup plus que leur valeur? Kedesh, Shelo, les Argil, les Ganvam, d'accord, ou les Gozlan, pour pas habituer ces gens-là à voler. Parce que quand tu leur donnes beaucoup d'argent, tu les habitues à voler.
Donc, si tu demandes une grande somme, on peut ne pas l'acheter. On peut ne pas racheter un sefer Torah.
Alors, par contre, le Mishnah Berurah dit plusieurs points. Il dit, tout d'abord, ce qu'on voit ici, c'est quoi? C'est que, on voit que le Shulchan Aruch nous dit qu'on n'a pas le droit de payer beaucoup plus que sa valeur. Mais un peu plus que sa valeur, on a le droit. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous dit le Mishnah Berurah, même si tu ne comptes pas acheter, tu dois continuer à faire croire à la personne que tu vas acheter.
Pour le garder chaud.
Pour le garder chaud. Ouais. C'est intéressant, je vais vous dire dans les mots. Regardez, si vous voulez, on va lire ensemble. Utret, numéro Utret, la négociation. Utret. Afal piken est quand même, en général, je vous dis à l'oral, là, je vous montre dans les mots. Quand même, le yesalek atzmo à Israël, tsechet menou. Même s'il lui propose un prix exorbitant, il lui dit, ouais, je veux 50 000 euros, ça n'a rien à voir avec le prix du Sefer Torah. Le Israël n'a pas le droit de se retirer de l'affaire tout de suite. Af shomer arve, bien que ce prix énorme. Ou mes chouyav la sakito, il doit continuer à négocier. Ben, ijve imo. D'accord? Peut-être qu'avec le temps, il va réussir à le faire descendre. Mais, même s'il n'arrive pas à faire descendre, il doit continuer à garder l'affaire au chaud. À l'appeler, il dit bon, il doit continuer à garder dans son calepin. Voilà. Ça, c'est important à savoir. D'un autre côté, il dit aussi le Mishnah Berurah, il ramène ce qui est écrit dans la Gemara, qu'on n'a pas le droit de proposer au goy un prix trop bas. Ici, il dit oui, je vous paye 1000 euros. Pourquoi? Parce que si tu proposes ce prix-là au goy, le goy il va s'énerver, il va dire oh, j'en ai marre parce qu'il croyait qu'il allait récupérer beaucoup d'argent. Il va le prendre, il va le jeter et il risque de le détériorer. Donc on va arriver au contraire de ce qu'on voulait. Donc faire attention. Il faut être un bon négociateur pour savoir combien l'autre tu penses qu'il s'y attend. Très dur ça. Combien tu penses que le goy s'y attend? Oui, mais le problème c'est que tu sais pas combien il s'attend.
C'est pas sûr.
Peut-être tu vas lui proposer 500 euros, il sera content.
L'utilité, c'est...
Mais peut-être tu vas lui proposer 500 euros, il va s'énerver, il va le jeter.
Amuser.
C'est
rare quand même.
Ouais, un temps de recherche. Non, mais...
Des collectionnaires. Mais...
On est censé retrouver le propriétaire?
Non.
Non, on le garde pour nous.
Oui, on le garde pour nous. Ouais.
C'est bien, non?
Bah, si tu sais qu'il a été volé, bien sûr tu dois essayer de retrouver le propriétaire. Le problème des coutumes, c'est qu'on savait pas si c'était volé. C'était des revendeurs. Des gens de revendre, ils faisaient beaucoup les marchés. Mais ça, un peu comme les gitans, mais en moins voleurs. Ouais, ça veut dire qu'ils faisaient pas que du vol.
À Barbès, on m'a volé mes tefilines. Mais comme j'étais l'unique livreur religieux, le type, il est parti proposer à un feuge dans un magasin. Et il l'a racheté. Il l'a racheté à l'époque 30 euros ou 300 francs. C'était peut-être des francs. Il m'appelle et me dit, Claude, tu as tes tefilines? Je lui dis, non, ça fait deux jours que je les cherche comme un fou. Je suis allé dans les commissariats, on me les a volés dans le camion. Il dit bon, mais ils sont
là.
Je disais bien que ça pouvait être que à toi, parce qu'il y a que toi, qui est livreur dans le, qui peut avoir des téfilines. Ouais, combien... Ils sont chez moi.
Donc il a payé, voilà,
il a payé. Il a pas voulu. Il a donné 200 ou 300 balles. Ceux-là.
C'est la phonétique. Je
vais te rembourser.
T'es il a ta chèvre.
Il relance, hein.
Ah oui, il relance.
Il relance, hein.
Alors, arrête. En nikachin, ela minamumpre, shebaki vachasavot veyeterot. Alors, de la même manière, on a le droit d'acheter les téfilines seulement d'une personne qu'on sait qui est mumpre, c'est-à-dire c'est un professionnel. On sait qu'il y a au moins un professionnel qui est passé par là, qui est capable de savoir les lettres chasavot et yeterot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, il y a des lettres, on va prendre le schéma, il y a des lettres qu'on écrit. Non, chasser et yatir, ça veut dire comme ça. On va prendre le schéma, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, Be'aftait Hashem Elokecha. Vous savez comment s'écrit Elokecha? Aleph, Lamed, He, Yud, Raf. Si on veut, on peut se passer du Yud. On aurait pu écrire sans le Yud.
C'est ça,
d'accord? On peut se débrouiller sans le Yud. Pourtant, on l'a écrit. Donc ça, ça s'appelle une lettre qui est Yatir. D'accord. Mais au Decha, si on voulait, on pouvait écrire, on pouvait rajouter un Vav entre le Aleph et le Dalet. Mais au Decha, pour l'écrire en toute syllabe, on pourrait. D'accord. Pour l'écrire en toute lettre, on pourrait. Mais on le fait pas. D'accord. Ça s'appelle un Chaser.
D'accord.
Et si il manque ou on a rajouté une lettre, c'est pas soul. C'est-à-dire, il faut, il faut le mettre. Chaser, c'est manquant. Comme ici, comme le mot Decha.
Chasadat.
Le Vav, on peut pas avoir le Vav. Voilà, pareil, BVTH, il y a un Yud, on aurait pu ne pas en avoir. Il y en a partout dans le schéma. En regardant, il y en a partout dans le schéma. Si on s'est trompé sur une lettre, on a rajouté ou on a enlevé alors qu'il n'y a pas le faire, c'est pas soul. Le problème, c'est que toi, t'achètes les défilines, tu les as pas ouvertes, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur.
Oui, il faut le temps d'examiner.
Alors, va savoir si celui qui les a écrits, il connaissait ça à la crotte là.
T'as pas regardé ?
D'accord. Alors, c'est pour ça qu'on dit, on les achète seulement d'une personne qui est moumré, d'un professionnel, chez Baki, Bachasterot, Véhéterot, qui s'y connaît. D'accord ? Qui s'y connaît. Mais d'une personne qui n'est pas moumré, c'est-à-dire si c'est pas son job, même s'il saurait le faire à la limite, c'est-à-dire s'il va ouvrir les filines, il sait les ouvrir et comparer un Sefer Torah, ça il sait le faire. Mais bon, on considère que si c'est pas un professionnel, ça va lui prendre la tête parce qu'il sait pas le faire. D'accord ? Vous avez déjà essayé de découdre des filines ? Bon. Il y a une manière, ne croyez pas que c'est simplement de la couture, il y a une manière comment on passe et comment on repasse, c'est pas simple. Donc, celui qui n'est pas professionnel, il fera pas. Et c'est possible qu'il va te dire qu'il a fait alors qu'il a pas fait. Et quand il va dire oui, je les ai ouverts, t'inquiète pas, t'es pas alors qu'il a rien ouvert du tout. C'est pour ça qu'on les achète seulement d'une personne. Ou bien au moins on sait qu'il y a eu un passage par une personne qui est moumré, qui est professionnelle. Donc bon, aujourd'hui la question se pose pas vraiment.
Est-ce qu'il a bonne réputation ?
Aujourd'hui, en général, dans l'endroit où on achète les téfilines, on peut remonter à la trace, on sait que ça vient de Bnei Brak, de Yerushalayim, il y a des chaînes de Sofrim, donc on sait qu'il y avait des moumrim, il y avait des professionnels. Mais si c'est pas le cas, alors, parce qu'à l'époque c'était beaucoup moins industrialisé qu'aujourd'hui. À l'époque c'était beaucoup plus c'est beaucoup plus artisanal.
Le problème quand c'est industrialisé, c'est qu'on peut tomber sur des fois un truc qui est bien écrit, et après, il se trouve quelqu'un d'autre qui l'écrit.
Et moi, quand j'achète des films de mes sous-autres, même des films, je demande d'avoir la photocopie du...
Il le donne maintenant.
Je le donne.
Pratiquement à chaque fois, il le donne.
Mais j'ai le donné. Plus que ça, aujourd'hui, normalement, un bon software, il doit même les avoir fait valider par l'ordinateur.
Il y a le petit tampon là.
Il y a un rapport, bien sûr. C'est évident.
Comme quoi l'ordinateur, il avait vérifié.
Lacar, Mimi, Cheno, Moumpré. Alors voilà, maintenant on va passer à la loi aux statistiques. On va revenir au STAM, ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous allez voir. Lacar, Mimi, Cheno, Moumpré. Si j'ai acheté d'une personne qui n'est pas Moumpré, c'est-à-dire j'ai acheté d'une personne qui n'est pas un pro, mais c'est une personne qui vend en grande quantité.
En librairie.
Tsarich, les vodkas, je dois les vérifier. D'accord, maintenant, si Lacar, Mimi, nous, mea petitot. Maintenant j'en ai acheté 100, Tfilin. D'accord ? J'en ai acheté 100, j'ai acheté 100 paires. Une personne, c'est un revendeur en grande quantité. Et c'est pas un, bon, le gars, c'est pas un professionnel, c'est pas son métier. Mais j'en ai acheté 100. Alors quand je vais ouvrir les 100, Bodek même Shoshak Titot. Il doit vérifier seulement 3 Titot. Ça veut dire quoi? Shtaim Shel Rosh Ve'achat Shel Yad. Soit 2 de la tête et une de la main. O Shtaim Shel Yad Ve'achat Shel Rosh. Ou bien 2 de la main et une de la tête. Im Metzam Ksherim. S'il les a trouvés cachers. Urzak Ze'aish. D'accord? S'il les a trouvés cachers et qu'on pense que de la manière qu'on explique le Shavuot, on pense, tel qu'on voit les choses, que les 100 paires de tefillin ont été écrits par la même personne. C'est le même style, enfin, ouais, ça peut se voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, avec, comme les tefillin sont passés par des presses, c'est pratiquement impossible de voir la différence entre eux. Mais à l'époque, on voyait tout de suite la touche d'un sauteur. Tout de suite.
A priori, c'est pas.
Donc là c'est Chazaka.
Si on en avait deux,
c'est Chazaka, une présomption. Pareil, toujours 3.
Si on en a 1000,
3. Toujours 3. Dès qu'on a 3, c'est un chiffre de Chazaka. VNHA, ça arrive, Dika. Donc, si, alors encore une fois.
Mendy, c'est 3 sur 100.
Non.
C'est 3 sur combien ?
C'est 3. Comme il y a eu 3, ça y est, il y a une
3 sur ce qu'on a pris.
3 sur 200 en vérité.
Même 3 sur 3. Même s'il n'y a que 3, il faut 3.
C'est pas
pour donner un exemple, parce qu'il y a beaucoup. Même s'il y a 3, il faut vérifier les 3. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que pour former une présomption, il faut 3 ou 2? D'accord. D'ailleurs, c'est par rapport à ça que, vous savez, dans la Mishnah de Baba Kama, on a vu, est-ce que pour devenir un taureau averti, il faut 3 ou 2? C'est la même chose, c'est le même concept. Il faut 3 ou 2? 3 fois ou 2 fois? Donc là, la halakha en général, c'est 3 fois. Rabbi Yuda dit c'est deux fois, mais la halakha était comme Rabbi Meir qui dit que c'est trois fois. D'accord ? Donc la chazaka c'est trois fois. Présomption c'est trois fois. Alors, par contre, ce qu'il y a de particulier ici, c'est que les tefillin, je les ai achetés en ktitsot. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je les ai achetés en vrac, c'est-à-dire il y a plein de boîtiers, mais c'est pas des sacs individuels. Comme c'est en vrac, donc on considère que ça a été écrit par la même personne. Et donc, dès que j'en ai vérifié 3, seconde s'il vous plaît, dès que j'en ai vérifié 3 et que les 3 sont cachères, c'est bon. Mais, si je les ai achetés tzvatim, tzvatim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était plusieurs sacs, d'accord? C'était individuel. Certainement que ce commerçant les a achetés de... Peut-être que lui, il est que le dernier de la chaîne, mais certainement que ça vient de plusieurs commerçants différents. Et donc, dans ce cas-là, les firar, bodek, mikol, tsevel, shnaim, shalosh, vachatchelia. Donc, du coup, chaque sac, dans chaque sac, il doit retrouver au moins trois.
Trois.
Les couilles, c'est les commerçants, les
couilles? Les couilles, c'est acheté.
Non, les couilles, c'est acheté.
La couilles, c'est un client, ouais. Vachatchelia, o shnaim, shalia, vachatchelroch. On est d'accord? Bon. Maintenant, une question. Qu'est-ce qui se passe s'il vérifie? D'accord? Qu'est-ce qui se passe s'il vérifie? Donc, il en prend deux, ils sont cachés, il prend le troisième, il est pas saoul. Il y en a 100.
Il revérifie tout.
Non, c'est bon.
Il doit tous les vérifier. Après,
c'est...
Qu'est-ce qu'on fait alors?
C'est
trop facile, on prend encore trois.
Non, il revérifie tous.
Qu'est-ce qu'on fait?
Il les ramène au marchand. Tiens, vous l'attaquez.
Il est obligé de les vérifier après chacun.
Alors, comment on appelle ça? Ici, il explique. Je crois qu'il l'amène pas ici.
C'est dans
la lahor de la cacheroute, quand on trouve ça avec la viande, etc. C'est qu'une fois que ce qu'on appelle la chazaka, une fois qu'on appelle la chazaka, elle a été nitrea. C'est-à-dire une fois que la chazaka a été abîmée. C'est-à-dire qu'on l'a déstabilisée. Il y avait une présomption, mais la chazaka a été déstabilisée. Alors, une fois qu'elle a été déstabilisée, la prochaine chance qu'on a, c'est 50%.
Ah, il en faut deux.
Ah bah non.
Non, tu prends la moitié de ce qu'il y a.
50%. Donc 50%, dès qu'on arrive, par exemple, 50, c'est la prochaine chance qu'on a. Après 50, il n'y a plus de chance. Il faut aller jusqu'à la fin. Et d'ailleurs,
c'est-à-dire que c'est le rose.
On a appris de combien.
C'est 50 sur 100 ou c'est 50 sur un nombre.
50.
On aurait dû faire.
La moitié.
C'est pas le rose, c'est pas sur un, parce que si c'est 5, c'est à la moitié, donc c'est le rose. Sur 200, est-ce que tu en prends 50?
Oui, mais il faut que la chazaka ait... Attention. Là, je parle d'un cas que la chazaka a été abîmée.
On est d'accord. Et sur 200, combien t'en prends? La chazaka a été abîmée.
100.
D'accord, le rose, toujours. C'est pas 50, c'est le...
Non, pas 100. 100.
100.
Parce qu'encore une fois...
La moitié.
Quand on dit qu'il faut un rove, c'est quand on n'a pas de problème de chazaka. Mais là, j'ai un problème. C'est que moi, j'ai 3. J'ai pris 3, il y en a un qui est pas bon. Il y en a deux qui sont pas bons. Donc ma présomption n'est pas bonne. Il y a un problème. Donc je vais jusqu'à 50. Si c'est bon, après c'est bon.
Jusqu'à 50%.
Voilà. Mais bon, en général, bon...
Si tu en as acheté 100, oui. T'en as encore 47 à regarder.
47. Ah non, faut refaire 50.
Sur le
reste. Il faut qu'il y ait 50 bonnes.
3. Ah d'accord. Donc t'en reprends
3 sur 50. Bon, moi, à ma place, j'aurais conseillé de tout revérifier, parce que non, si.
On a pas de bol, là.
Il a pris 3, et voilà, c'était pas bon. On continue. Amocher Tfilin. Amocher Tfilin. Ve'amar. Alors, attention, il explique le Mishnah ici. Il dit aussi que tout ce principe-là, que 3 me suffit sur 100, c'est dans le cas où celui chez qui je les achète, il me dit qu'il les a écrits lui-même, ou qu'il dit qu'il les achète quelqu'un de confiance. C'est pour ça que c'est là que la présomption va servir. C'est-à-dire qu'une présomption peut marcher seulement si elle est déjà sur des bases solides. La base solide, c'est-à-dire qu'il dit c'est moi qui les ai écrits. Bon, il dit c'est moi qui les ai écrits, tu les ouvres, tu vois qu'il y en a 3 qui sont cachères. Je dis bon, ça va, ça veut dire qu'il est cachère. Mais si le gars tu dis non, je les ai achetés de quelqu'un et c'est douteux, dans ce cas-là, il n'y a aucune présomption possible, faut vérifier les 100. On est d'accord? Très bien. Amocher tfilin va marcher à la dame Gadol. Une personne qui vend des tfilines. Et qui dit que, vous savez, ces tefilines m'ont appartenu à quelqu'un de très grand, quelqu'un de très important, qui a appartenu à un tzadik. Neheman, on lui fait confiance. Ben Tsrim Dika, et on n'a pas besoin de les vérifier. Pourquoi? Alors, là c'est intéressant. Imaginez-vous par exemple, quelqu'un il vient, il vous dit, voilà, ces tefilines-là, je les ai achetées au grand rabbin de Paris. L'ancien grand rabbin de Paris. Ah, il n'est pas là, on ne peut pas lui demander. Bon. Donc le Rav Revivo. Maintenant le Rav Revivo, il était sofer le Rav Revivo?
C'est pas Avedin.
Bon, il n'était pas sofer. Je crois pas qu'il était sofer. Donc bon, t'as celui qui va dire, oui, c'est vrai que c'était un grand rabbin, c'est vrai qu'il connaissait beaucoup d'Alachot, mais il n'était pas sofer. Alors, lui il dit, je les ai achetés au grand rabbin. Alors est-ce que maintenant on dit, oui, mais le grand rabbin n'était pas sofer? C'est pas forcément qu'il connaît toutes les chasseres et attire, c'est pas son domaine.
Parce que c'est une histoire magique, genre,
Alors écoutez bien. Explique le Mishnah, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la cacheroute aussi. Il y a une présomption qui s'appelle Chazaka al Chaver chez Nomo Tibitachatido d'Avar chez Nomo Toukan. Traduction. Il y a une présomption qu'un Chaver, c'est-à-dire une personne reconnue, voilà, comme un rabbin ou quelqu'un reconnu,
lui l'a fait.
D'accord? Il s'arrangera pour que ce qui sort de ses mains soit cachère. Et même s'il ne l'a pas dit explicitement, il t'a pas signé un papier, j'ai vérifié, certainement que si ça sort de chez lui, même si il ne te l'a même pas vendu, si c'est chez lui à la maison, il y a une présomption que si c'est chez lui à la maison, certainement que c'est OK.
C'est qui s'arrange? D'accord.
C'est, non, c'est une présomption. Il y a une présomption.
Une voiture seconde main qui était au compte de machin. Voilà. Tu te dis, elle était super entretenue. Elle
vous savez, la Gemara amène le cas suivant. Elle dit, qu'est-ce qui se passe si Dieu préserve une personne comme ça, meurt, et il y a des fruits chez lui à la maison, et on ne sait pas s'il a prélevé le maaser ou pas. Non, peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il l'a pas encore fait. C'est possible qu'il l'a pas prélevé. On dit certainement qu'il l'a prélevé. Pourquoi peut-être qu'il l'a pas prélevé? Parce que certainement qu'une personne comme ça ne laisse pas chez lui des obstacles, des choses qui sont pas cachées à 100%.
Des pièges.
Certainement que c'est déjà fait. Ah, peut-être que c'est pas fait. Oui, mais il y a une présomption que c'est fait. Dans la majorité des cas, c'est fait, donc on considère que c'est fait. Donc là, t'as une personne qui vient te dire, j'ai acheté les tefillines d'un tel. Un tel. Donc apparemment, il a un contrat qui dit qu'il les a achetés d'un tel. Mais on sait pas si un tel, il les a vérifiés. Ou bien il te dit, j'ai récupéré un tel et Niftar, je suis rentré chez lui, je les ai récupérés. Et on voit, c'est validé, il les a récupérés de là-bas. Il y a le nom, etc. Puisque ça vient de là-bas, certainement que c'est cachère. Bien que ce rave-là n'a pas validé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un principe qu'on applique beaucoup aussi dans la loi de la cacheroute. Vous rentrez chez quelqu'un à la maison, ou bien quelqu'un vous envoie un plat, pas besoin de lui dire, est-ce que vous êtes sûr que ça a été bien? Certainement que si ça vient de chez lui, certainement qu'il s'est arrangé pour que ça soit bien. Je finis avec ça.
Mais étant mort.
Oui. Comment mais le principe, la présomption, c'est que ce qui était chez lui à la maison, c'est certainement que c'est bon.
Sa réputation.
Il laisse pas chez lui un obstacle.
C'est un zariste, c'est un zélé.
Maintenant, tfilin, chez Ourzekou, et Kachrout. Des tfilin qui ont une présomption de Kachrout, c'est-à-dire qui sont cachères. Et Nam Sochim Dikal Olam, c'est-à-dire une des tfilin qui ont été ouvertes, validées, vérifiées, cachères. Halachiquement parlant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont jamais besoin d'être vérifiés. Ça veut dire, si on voit la stricte halacha, ils n'ont jamais besoin d'être vérifiés. Pourquoi? Hein, tant que, encore une fois, leur présomption n'a pas été abîmée, c'est-à-dire par exemple, les tefilines n'ont pas été en contact avec de l'eau, ou avec trop de transpiration, d'accord, ou avec la chaleur, c'est-à-dire qu'encore une fois, la présomption n'a pas été abîmée. Et c'est une tefiline normale, il n'y a pas de raison que les lettres s'effacent. Tant qu'elle reste couverte, elle reste hermétique, il n'y a pas de raison que les lettres s'effacent. Mais, bien sûr, encore une fois, c'est évident, dès que la chazaka a été abîmé. Par exemple, on l'a laissé dans une voiture un peu trop de temps et le soleil a tapé dessus. Donc du coup, je ne peux plus avoir la présomption. Ma présomption ne tient plus. Je dois la refaire vérifier. D'accord ? C'est-à-dire que la présomption ne peut marcher, la présomption de cache-route à vie ne peut marcher seulement si elle n'a pas été abîmée. Mais dès qu'elle a été abîmée, c'est fini. On est d'accord ?
On parle bien d'un problème technique. C'est pas un problème de cache-route qui serait dû d'origine. À un problème de sûreté.
Non, parce que là, justement, non. C'est fini, ça devient jamais impur. Ni un Sefer Torah. Ça devient pas impur. Par contre, ce qui aurait pu se passer, c'est que les tefilines n'étaient pas cachères à la base. Non, mais elles étaient écrites. Non, elles ont été vérifiées. Cachères. Une fois qu'elles ont été vérifiées, c'est bon.
Ma femme, dès que j'ai trouvé mes tefilines, elle m'a dit, elle est partie, elle est partie, il faut vérifier les
tefilines. Oui, parce que vous savez, elle a raison. Est-ce que vous êtes capable de vous rappeler ce qui s'est passé depuis que la dernière fois que vous les avez laissées? Vous savez pas.
En une journée, je ne sais pas ce qui a pu se passer.
Impossible, vous savez pas.
Elle m'a dit qu'il n'aimait pas tant qu'on n'a pas vérifié.
Bien sûr. Peut-être qu'elle était au soleil, peut-être qu'elle était sous l'eau. Impossible de savoir. C'est impossible de savoir. Impossible. Donc il fallait vérifier. Parce que la chazaka a été abîmée. Ve'im enom enicham et la lifrakim. Si maintenant on met les tefilines et la lifrakim, c'est-à-dire seulement de temps en temps, d'accord? Trim pa dika pa maim bashavua. On doit les vérifier. Pa maim bashavua, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux fois c'est pas par semaine. Chavua ici, c'est 7 ans. Alors, il faut comprendre. Ça veut dire quoi, l'ifrakim? L'ifrakim, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui met les tefilines, comme nous aujourd'hui, on ne met pas les tefilines toute la journée. On met les tefilines de temps en temps.
Alors, il a deux paires. D'accord?
Donc, ça s'appelle, a priori, ça s'appelle l'ifrakim. Pourquoi? Puisque, combien de temps on les met par jour? On va les mettre une heure. Mais 23 heures, elles sont laissées, donc il y a un risque de moisissure. Tant qu'on les garde sur la personne, tant qu'on les bouge, d'accord? Il n'y a pas de risque. Alors, bon. C'est une question. Est-ce qu'en quelques heures comme ça, ça peut arriver à la moisissure? Normalement, l'ifrakim ici, ça veut dire vraiment quelqu'un qui met des tefilines et qui les a pas mis, ça fait plusieurs jours. D'accord? C'est pas très clair.
Ça fait un an qu'il n'a pas touché.
Voilà. Ça fait un an qu'il n'a pas touché.
Il peut avoir deux.
En plus, ça veut dire qu'ils peuvent se moisir. La moisissure. Mais c'est possible. Tant qu'on les porte sur soi, il n'y a pas de problème de moisissure. Tant qu'on est en activité, tant qu'ils sont à l'air, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu les ranges dans un boîtier, que tu les laisses, etc., il y a un risque de moisissure. Alors, comment on fait s'il y a un risque de moisissure? Tu vas pas les vérifier tous les jours. On les vérifie au moins deux fois par 7 ans. D'accord? Deux fois par 7 ans.
C'est ça la règle.
C'était fixé par la Gemara, ça. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça a maïm, bachavua. La halakhot de Mezouza, on verra après. D'accord? La halakhot de Mezouza, en général, on préconise la même chose. Deux fois par 7 ans. Mais, on considère qu'il faut au minimum une fois tous les 50 ans. Pour la Mezouza. mezuzah qui est à l'air. Bon, mais ça, on verra après. On arrivera à l'achat des mezuzahs. Oui.
Par exemple, j'espère qu'on a vérifié plus que ça.
Par exemple, pour les mezuzahs publics, tout ce qui est public, directement, on dit ce qu'il faut, c'est une fois tous les 50 ans. Une fois par Yovel. Bon, en général, il faut que ça tienne, hein, une fois les 50 ans. Bon, ça peut tenir, hein, il n'y a pas de raison. Si c'est bien dans un bon boîtier, pas de raison. Ve'im enlo mishayuchal livdok velachazor l'utafram yinichemka v'lobdika. Si maintenant 7 ans sont passés, bah, le cas de M. Bismuth, il a retrouvé cette filine, Baruch Hashem, sa femme lui dit il faut les vérifier, et elle a raison. D'accord ? Mais
il n'a pas écouté.
Il n'a pas le temps d'aller les vérifier, il doit mettre cette filine, on est 5 minutes avant la Shkia, c'est où ça ou rien. Pour aujourd'hui, c'est où ça ou rien. D'accord ? Alors, il met les filines. Parce que bon, c'est vrai que la présence est touchée, il met les filines, d'accord ? Et il met les filines, a priori, ce qu'on comprend, d'accord ? Qu'il faut faire la bracha. Alors, le Shuranour ne le dit pas. Est-ce qu'il faut faire la bracha? Ben, il dit, il faut les mettre. Mais le Mishnah Moura, il dit qu'a priori, il faut faire la bracha. Pourquoi? Puisqu'il dit, il a une idée intéressante. Il fait la différence entre Reuta Brura et pas Reuta Brura. Ça veut dire quoi? Entre, donc rappelez-vous, une chazaka, c'est une présomption. On a dit qu'une présomption peut être abîmée. Mais est-ce qu'elle a été abîmée de manière pertinente? Oui ou non? Quand, par exemple, elles sont passées sous l'eau, là, c'est sûr qu'il y a un problème. C'est sûr que c'est pas clair. Donc là, tu peux pas les mettre. Parce que là, c'est sûr qu'il y a un problème, tu peux pas faire une bracha levatala. Par contre, si c'est pas une reuta brua, c'est-à-dire c'est un doute, tu sais pas où elles étaient. Peut-être. Ou bien, tu sais pas, peut-être qu'elles ont moisi. C'est pas une reuta brua, c'est pas clair qu'il y a un problème. Donc si c'est pas clair qu'il y a un problème, dans ce cas-là, on peut mettre les tefilines avec la bracha. Dernier point encore. Une personne, ça c'est un cas aussi. Une personne qui trouve des téfilines à la Gnisa, téfilines ouvertes, sans lanière, d'accord ? Bon, avec des parchemins à l'intérieur, mais il les trouve ouvertes. Il regarde, il vérifie, il voit, ils sont bien, ils sont cachés. Il dit, attends, ils sont cachés, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils font à la Gnisa ? D'accord ? Alors, il dit ici, d'accord ? S'ils sont à la Gnisa et qu'ils sont ouvertes, certainement qu'il y a ce qu'on appelle un psoul nistar. C'est-à-dire certainement qu'il y a quelque chose, il y a une raison pour laquelle elles ne sont pas cachées. Hein. Par exemple, elles ont été vite cachées, oui. Cachées. Par exemple, elles ont été écrites par quelqu'un de pas convenable, etc. Par exemple. C'est pour ça qu'elles sont là. Parce que si elles sont fermées, on considère que c'est quelqu'un qui les a mis à la Gnisa parce que bon, ils voulaient plus les utiliser. Bon, il y a acheté des nouvelles. Là, tu peux les récupérer, tu peux les retaper si tu veux. Mais si elles sont ouvertes, ça veut dire que certaines, même si on les vérifie, cachées. Aucun problème. Mais si elles sont à la Gnisa ouvertes, ça veut dire que certainement que
c'est qu'on les a ouverts.
Non, et certainement qu'il y a un sous le mystère, il y a un vide caché qu'on ne connaît pas. Et donc on n'a pas le droit de l'utiliser, on doit les laisser à la Gnisa.
Ouais, on suppose en fait que la personne les a ouvertes exprès pour pas qu'on les récupère.
Ah, c'est le vis-à-vis.
Non, c'est pour ça, c'est le vis-à-vis. Moi je les invaliderai carrément. Ouais. C'est ça. Je ferai sauter des lettres, après on est tranquille.